Coucou, mon nom est Richard et je viens vous présenter les bénéfices de l'intelligence artificielle pour votre service de loisirs.
Oh, l'intelligence artificielle?
Mais mon Dieu, Jimmy, qu'est-ce qui s'est passé ici?
C'est à cause de l'IA. L'IA! L'IA!
Sacre bleu, Jimmy! Mais pourquoi tu dis IA? Serais-tu devenu un cow-boy, Jimmy?
Non, l'IA! L'intelligence artificielle! Elle a pris le contrôle du service des loisirs! Depuis une semaine, elle génère des politiques qui ne sont pas durables et sans objectif smart!
Mon Dieu, Jimmy! Il faut arrêter cette machine du diable avant l'extermination totale, ou pire, la fin du télétravail. Mais qui a bien pu créer ce monstre, Jimmy?
C'est Vinaigrette, l'animatrice des 5-6 ans. Elle a voulu créer une application qui comptait ses jeunes à sa place, mais... l'intelligence était beaucoup trop puissante. Elle s'est revirée contre elle.
Jimmy, reste avec moi, Jimmy! Mais qu'est-ce que tu as fait, Vinaigrette? Créer une intelligence si forte sans accompagnement, c'était de la pure folie!
Chargez pour Jimmy!
Monsieur? Monsieur, ça va?
Oui, ça va. Offrez-vous un soutien pour la mise en place?
Bienvenue au balado de l'OQL, mon nom est Fred Ross et je vous accompagnerai tout au long de cet épisode. Aujourd'hui, on accueille trois merveilleuses personnes pour nous parler de l'intelligence artificielle en loisirs. Un petit avertissement pour commencer, cet épisode se fera sous la grande thématique de la technologie. Donc, pour ceux et celles qui s'enfuient dans leur abri nucléaire lorsqu'ils entendent le mot Excel, ou bien algorithme, ou encore sécheuse intelligente... N'ayez crainte, nous débuterons tranquillement avec la définition de l'intelligence artificielle dans une ambiance décontractée et chaleureuse. Chut. Ah, c'est bien mieux de même. Hein?
Relax.
Dans le bulletin de l'OQL volume 21 numéro 1, ben on peut lire que c'est en 1956, à l'occasion d'un colloque scientifique dans le New Hampshire aux États-Unis, qu'apparaît pour la première fois le terme intelligence artificielle, qu'on va appeler nous autres amicalement
L'IA.
Ce terme est une analogie à l'intelligence humaine qu'elle cherche à simuler par des programmes informatiques exécutant certaines tâches à la manière d'un être humain.
Inspire. Expire.
En ce sens, l'IA est un domaine de recherche qui se dédie à l'étude de la façon dont les machines peuvent effectuer des tâches d'ordinaire réalisées par les humains.
Ah oh ben gadon, tu viens d'avoir la définition de l'IA, puis... T'es relax.
Bon, ben on va continuer. Sur le site de la Déclaration de Montréal sur l'IA, on peut lire que l'intelligence artificielle constitue un progrès scientifique et technologique majeur qui peut engendrer des bénéfices sociaux considérables en améliorant les conditions de vie, la santé et la justice, en créant de la richesse, en renforçant la sécurité publique ou en maîtrisant l'impact des activités humaines sur l'environnement et le climat. Les machines intelligentes ne se contentent pas de mieux calculer que les êtres humains. Elles peuvent interagir avec les êtres sensibles, leur tenir compagnie et s'occuper d'eux.
Bianca, j'ai faim.
Oui, mon.
Thomas Wallet.
Je vais te faire un bon.
Spaghetti.
Comme tu l'aimes. Puis si tu veux, après on pourra aller.
Jouer dans la headset.
Hein? Qu'est-ce que t'en penses?
Cool, merci Bianca.
Pour mélanger un peu la soupe, il existe encore plusieurs mots et concepts qui sont liés à l'intelligence artificielle et les voici en ordre alphabétique, par la lettre A. Agent, agent conversationnel ou chatbox. Agent physique, algorithme prédictif, analyse des mégadonnées. Apprentissage automatique ou machine learning. Apprentissage par renforcement. Apprentissage profond ou deep learning. Apprentissage supervisé. Approche multi-agent. Arbre de décision. Assistant virtuel.
Inspire. Expire.
Et quelques 50 autres thèmes tout aussi délicieux. Pour ceux et celles qui aimeraient connaître la définition de tous ces termes,
oui, moi je veux.
Dirigez-vous vers le site internet cscience.ca, Un glossaire des termes liés à l'intelligence artificielle vous y attendra. Mais là, je vous entends, là, dans le confort de votre chez-vous, là, peux-tu même me dire, Fred, pourquoi est-ce qu'on parle d'intelligence artificielle en loisir? Ben, je te répondrai en disant que si on commence aujourd'hui à parler de l'intelligence artificielle, ça se pourrait qu'on soit un brin en retard. Dans un monde où un bénévole peut écrire un texte pour une demande de subvention, où un employé peut écrire une lettre de motivation par une intelligence artificielle comme ChatGPT, où des filtres numériques s'appliquent afin de recevoir uniquement de l'information selon notre profil et nos préférences, mais aussi dans un monde où la demande liée à nos infrastructures est de plus en plus forte, ben, s'arrêter pour analyser l'impact positif comme négatif de l'intelligence artificielle, même en loisir, semble être incontournable. Et pour nous en parler aujourd'hui, nous accueillons... Benjamin Branget, cofondateur et président de l'Escabeau, chargé de cours à l'UQTR et étudiant au doctorat interdisciplinaire en aménagement à l'Université de Montréal. Myriam Côté, directrice recherche et innovation au Centre d'intelligence artificielle appliquée Jacob et titulaire d'un doctorat en intelligence artificielle de l'École nationale supérieure des télécommunications. Petite parenthèse intéressante ici. Au-delà de l'intelligence artificielle, Madame Côté détient aussi un bac en musique de l'Université Laval. On continue avec Pierre Rosin, gestionnaire de projet en intelligence artificielle du Centre d'intelligence artificielle appliquée Jacob et titulaire d'une maîtrise en mathématiques computationnelles à l'Université de Montréal. Débutons tout d'abord avec la question à 85 et 75, quel rôle pourrait jouer l'IA dans le monde du loisir? Tiens, Benjamin, qu'est-ce que tu as à nous dire sur le sujet?
Eh bien, tout d'abord, il faut comprendre que l'intelligence artificielle, c'est une nouvelle technologie, ou c'est une évolution technologique, devrais-je dire, qui n'est pas en fait une rupture fondamentale avec bien des technologies qu'on peut utiliser ou qu'on peut connaître depuis de nombreuses années. Donc, c'est une nouvelle ressource qui se démocratise, qui imprègne notre société, nos organisations, notre quotidien comme individu ou comme professionnel. Et plus particulièrement dans le domaine du loisir, eh bien, évidemment que l'intelligence artificielle va venir percoler, si je peux le dire, ce champ-là, va venir imprégner les activités, les services, les espaces de loisirs, qu'ils soient publics ou privés, et la manière, autrement dit, dont le loisir va se dispenser et va être vécu par les groupes, les communautés et les individus. Faut pas oublier que, pour rappel, comme professionnel en loisir, notre rôle, c'est de rendre disponible les conditions d'une expérience de loisir qui soit la plus satisfaisante possible pour les personnes qui vont être amenées justement à vivre le loisir. Donc, on cherche au travers de ça à procurer les plus grands bénéfices possibles, les bénéfices que recherche la collectivité, la communauté, en vivant son loisir. Mais il faut rester aussi cohérent avec la mission et les stratégies de nos organisations respectives. Et en ce sens, évidemment que l'intelligence artificielle constitue en fait une nouvelle ressource, un nouvel outil qui est dorénavant et qui va l'être de plus en plus aussi à la disposition du professionnel en loisir pour justement être capable d'optimiser, de maximiser et de garantir en fait les conditions de cette expérience optimale de loisir. Donc, on s'appuie sur l'intelligence artificielle, on l'intègre, mais elle ne remplacera jamais en fait le rôle du professionnel en loisir et ses compétences en tant que professionnel du champ du loisir.
L'IA remplacera jamais le professionnel en loisir? Il ne remplacera jamais le professionnel en loisir. Professionnel en loisir forever. Attendez. J'ai une autre question. Monsieur Branget et Monsieur Rosin, si l'IA ne remplacera pas le loisir, à quoi est-ce qu'il va lui servir concrètement d'abord?
C'est vraiment une bonne question.
En fait, une technologie qui peut donner lieu à plusieurs outils qui vont nous permettre, autrement dit, d'explorer des scénarios, des champs, des avenues jusqu'à présent inexplorés. On a beaucoup de bases de données qui existent dans le domaine du loisir public, dans le domaine municipal, tout simplement dans le domaine municipal, il y a énormément de données, que ce soit des données sur les données populationnelles, les données sociodémographiques, les données sur nos infrastructures, sur l'utilisation de nos infrastructures, sur les inscriptions à nos activités, sur la fréquentation à nos événements, sur les profils d'individus qui s'inscrivent à ces activités ou qui participent à ces événements, sur le rôle d'évaluation foncière, la superficie de parc, espace vert et l'inventaire de toutes nos infrastructures, qu'ils soient quantitatifs, qualitatifs. Toutes ces données-là, en ce moment, vivent de manière isolée. Et c'est un régisseur, c'est un chef de division, c'est une petite équipe qui va exploiter ou qui va essayer de démêler une partie de ces données pour répondre aux besoins de son plan directeur des parcs, pour répondre aux besoins de sa programmation automnale, et ainsi de suite. Là, l'intelligence artificielle nous permet de mettre tout ça en relation et d'être capable d'amalgamer toutes ces données-là au sein d'une base de données qu'on va pouvoir interroger par le biais de différents modèles et nous permettre justement de poser des questions et d'avoir des réponses qu'on va pouvoir interpréter et qui vont nous aider à prendre des décisions, que ce soit dans l'implantation d'un nouvel équipement, que ce soit dans la manière dont on façonne notre programmation saisonnière, que ce soit dans la localisation d'un équipement ou la manière dont on va le gérer, et ainsi de suite. Donc, l'image que je pourrais donner, c'est vraiment cet outil supplémentaire qu'on va utiliser.
Dirigeons-nous maintenant vers la réponse de Pierre Rosin.
Ah, ça fait tellement mal à la gorge.
À étant nos professionnels du loisir, on peut penser à des situations de crise où des décisions doivent être prises vite et de manière optimale. Par exemple, dans la gestion des foules, il peut arriver qu'il y ait une situation imprévue qui peut amener à faire des mouvements de foule, ou si les professionnels n'agissent pas rapidement, il peut y avoir des gens qui meurent étouffés si l'évacuation n'est pas faite rapidement et de manière optimale. Donc ici, ce qu'on veut faire, c'est bâtir des outils qui peuvent nous aider à résoudre ces problèmes, mais non pas remplacer les professionnels. On veut bâtir des outils qui offrent un support à la prise de décision et qui soient capables d'émettre des alertes lorsque des situations le nécessitent. Mais il faut garder en tête que l'intelligence artificielle n'est pas capable de tout prédire et que si elle peut identifier des tendances et des synergies préexistantes, elle reste limitée lorsqu'il y a des situations inattendues ou des situations inédites. Et dans ce cadre-là, la capacité d'adaptation des humains reste sans pareil.
Donc pour fonctionner efficacement, l'IA doit se nourrir de données de grande qualité qui, comme nous venons de l'apprendre, sont déjà existantes mais sous-utilisées dans le monde du loisir. Toutefois, si on lui injecte des données que je qualifierais comme de la grosse boîte, ben il se pourrait que le résultat que ça nous donne, ça soit aussi de la grosse boîte. Si on se fie au vieux dicton « quand une personne a faim, il vaut mieux lui apprendre à pêcher que lui donner le poisson », mais pourquoi est-ce qu'on leur apprendrait pas à cette petite bête-là à se nourrir par elle-même, là? L'IA est en masse capable de créer ses propres données, non?
Pourquoi il n'est pas souhaitable que demain, les modèles soient entraînés uniquement sur des données provenant de l'intelligence artificielle? Donc, il y a un papier qui a été publié en mai dernier où des chercheurs se sont posé la question suivante. Donc, si demain, 90% du contenu sur Internet était généré seulement par une intelligence artificielle, quelles seraient les conséquences sur les modèles? Dans leur étude, ils sont partis d'un modèle qui a été généré 100% avec des données créées par des humains. Puis, ils ont entraîné de manière itérative des modèles où chaque nouvelle version prenait 90% de données générées du modèle précédent, donc de données générées par l'intelligence artificielle, et 10% de nouvelles données provenant des humains. Et ils se sont rendus compte qu'en 20 générations, en suivant ce processus, ce protocole, le modèle a totalement oublié la plupart des concepts et n'est plus capable, donc par exemple si on prenait ChatGPT, ne serait plus capable de générer du texte pertinent. Donc si le monde de demain est composé seulement de données fabriquées par l'intelligence artificielle, on pourrait avoir une grande perte de performance sur ces modèles. Donc, il faut vraiment garder en tête que l'humain est essentiel dans le processus d'apprentissage de ces modèles.
Bon, ben maintenant qu'on sait qu'on devrait utiliser l'IA pour plusieurs aspects de notre travail en loisir, ben ouvrons les valves!
Bonjour et bienvenue à la maison tant qu'il y a du loisir, il y a du fun. Ici, notre programmation de loisirs offre une expérience optimale à tous ses résidents. Regardez ici par exemple, on a mis une puce dans le bras de tous nos participants qui jouent aux quilles. La puce détecte les hormones de nos participants pour s'assurer qu'ils ont du plaisir. Chaque fois que la puce détecte un niveau de plaisir inadéquat chez l'un de nos participants, elle lui envoie un rappel amical du plaisir sous forme d'un léger choc d'environ 120 volts. Mais avec moi, on se déplace maintenant vers notre atelier de spinning où vous serez sans doute surpris par l'endroit où est-ce qu'on a mis notre système de rappel amical du plaisir.
Ouais. Faudrait peut-être parler d'éthique avant d'ouvrir un petit peu plus les valves. Au Québec, on est assez chanceux de pouvoir s'appuyer sur la Déclaration de Montréal pour une intelligence artificielle responsable. On peut d'ailleurs lire sur le site internet déclarationmontréalia-responsable.com les 10 principes qui la composent, soit le bien-être, le respect de l'autonomie, la protection de l'intimité et de la vie privée, la solidarité, la participation démocratique, l'équité, l'inclusion de la diversité, la prudence, la responsabilité et le développement soutenable. On vous invite d'ailleurs à aller lire sur ces principes sur le site internet déclaration-montréal-ia-responsable.com. Sur le site, on peut lire que la Déclaration de Montréal est une œuvre collective qui a pour objectif de mettre le développement de l'IA au service du bien-être de tout un chacun et d'orienter le changement social en élaborant des recommandations ayant une forte légitimité démocratique. D'ailleurs, d'où vient l'idée d'avoir cette merveilleuse déclaration, Mme Côté?
Quand on a commencé à voir l'impact de ce que ces outils-là pouvaient avoir sur les humains, on s'est dit, bien là, il faudrait peut-être poser les bases d'une réflexion éthique là-dessus, d'où le projet de la Déclaration de Montréal qui a été initié par Marc-Antoine Dilac. Et donc, le processus en lui-même a été fait avec plein de joueurs dans la société. Parce que finalement, c'est un consensus social. Qu'est-ce qui est correct pour nous? Donc, il y a eu des rencontres avec la société civile, avec les gouvernements, avec les entreprises, avec toutes sortes de joueurs dans l'écosystème pour essayer de définir qu'est-ce qui serait important comme principe à respecter avec l'IA. Puis, ça a donné lieu à la Déclaration de Montréal. Après ça, c'est bien beau de réfléchir là-dessus puis se faire un consensus social, mais après, c'est comment on s'assure que ça se passe comme ça quand on crée les modèles?
Ben, c'est une excellente question, ça, Mme Côté. Qu'est-ce qui s'assure que les gens et les industries respectent les normes collectives liées à l'IA? Est-ce qu'on a une police de l'IA? 10:34 à la centrale. En poursuite d'un jeune homme rouquin dans la fin trentaine en fuite sur la rue principale. On l'a pogné en flagrant délit. Il utilisait ChatGPT pour écrire la lettre d'anniversaire de sa mère, l'écœurant. Mais plus sérieusement, à qui revient vraiment la responsabilité du respect des normes, Mme Côté?
J'aime ça que tu poses cette question-là, Frédéric, parce que c'est au cœur de la problématique, en fait. Laisse-moi juste faire une remarque à ce sujet-là. On parle de la Déclaration de Montréal, c'était une des premières déclarations pour dire, bien là, ça nous prend un cadre, tu sais. Mais comme partout dans l'univers, il y a de la compétition. Parce que c'est qui va être celui qui va dicter l'éthique ou qui va faire les réglementations qui découlent de cette éthique-là? C'est qui va caler les shots? Fait que là, après ça, il y a des marchés qui viennent avec ça. Bien, ça devient économique. Alors là, après ça, moi, je suis bien contente parce que tu sais, des fois, on se dit, il ne se passe jamais rien au Canada, il me semble que ça se passe toujours ailleurs. Mais là, finalement, à Montréal, c'est nous qui avons initié la première déclaration. Il faut en être fier de ça, il faut le célébrer. Mais à travers le monde, il y en a plusieurs chartes. Tu vas voir, là, chacun décide de faire sa charte. Pour répondre à ta question, c'est quoi la police? Bien, la police, c'est les États, c'est les systèmes de droit. Et là, on s'est toujours dit depuis qu'on a posé les assises des principes d'éthique, c'est qu'après ça, il faut amener ça dans le concret, comme je disais, et la façon de le renforcer, c'est par de la législation. Sauf que la législation est toujours à la traîne par rapport à l'innovation technologique. Ça dit, coudonc, ils nous ont inventé ça, bien là, oh, hein, c'est vrai, il faut faire attention avec ça. Hein? On a fait des belles voitures, bien là, maintenant, on doit porter la ceinture de sécurité. Au début, on n'avait pas besoin. Donc, on est toujours en retard. Et là, on est rendu là avec la maturité là qui arrive avec l'adoption de cette innovation là. Là, c'est il y a eu comme un, un gros boom avec les chats GPT de ce monde. Tout le monde, tout d'un coup, là, réalise que c'est maintenant, là, on l'a dans la vie. Là. Alors là, tu vois monter là, toutes les professeurs, les intellectuels, les GAFAM qui disent « Là, il faut faire un moratoire, il faut arrêter le développement de l'IA pendant 6 mois. » Ben là, il faut s'efforcer de faire de la réglementation. Hein? La réflexion suit la tendance économique puis les enjeux économiques. On est rendu là, mais on n'est pas prêt parfaitement. Puis moi, je trouve que les leaders en ce moment, c'est les Européens. Tant mieux. Ils vont nous aider à renverser la vapeur puis protéger les humains.
Avant de se laisser, on a pris comme bonne habitude au balado de l'UQL de se laisser avec un mot de la fin. Avec quoi est-ce qu'on devrait repartir de cet épisode? Pour aujourd'hui, le mot de la fin appartient à Benjamin Branget.
Premièrement, l'idée de questionner, en fait, l'intelligence artificielle et le loisir, ben c'est vraiment de notre temps. Et il faut voir ça comme étant une première réflexion qu'on amorce dans le domaine du loisir et puis de voir comment est-ce qu'on peut intégrer l'intelligence artificielle. Ça va évoluer et en ce sens, il faut que les gens, selon moi, demeurent ouverts à l'évolution de ces technologies et qu'ils considèrent que ces outils peuvent faciliter et enrichir, autrement dit, leur profession, leur fonction. Il faut que les gens soient capables de s'inspirer de celles-ci pour justement toujours mieux réaliser leurs tâches, si je peux le dire ainsi, et mieux répondre à l'essence même de leur profession. Mais cela étant dit, il faut aussi que les professionnels demeurent prudents et demeure également critique à l'égard de ces technologies et de ces outils. Je l'ai mentionné précédemment, il faut vraiment être capable d'interpréter et d'avoir un regard critique sur la manière dont on utilise et sur les données qui sont utilisées. Donc, il ne faut pas penser que ces outils vont remplacer l'humain. Il faut vraiment que l'humain se les approprie et soit capable d'être formé éventuellement à bien les utiliser, comprenne le langage que ça implique quand on discute avec des architectes ou des ingénieurs de données, quand on va passer des commandes, il faut qu'on soit outillé pour justement adresser ces commandes-là et être capable de bien interpréter les données. Restons donc ouverts, inspirés, faisons preuve de discernement et d'un jugement critique à l'égard de cette technologie. Et n'oublions pas que les savoirs et les habiletés du professionnel en loisir sont pour moi la clé. Il faut qu'on soit des professionnels compétents, habile, capable d'utiliser ces outils et toujours d'avoir du jugement quand on les utilise.
C'est ce qui met fin à cet épisode du balado de l'OQL. Pour ajouter votre saveur à ce merveilleux projet, nous vous invitons à nous laisser un commentaire en nous indiquant ce que vous avez aimé, mais ce que vous avez moins aimé aussi de cet épisode. On souhaite aussi remercier nos invités spéciaux pour leur participation exemplaire. Nous vous remercions de votre écoute et on se dit à la prochaine! Ce balado est une présentation de l'Observatoire québécois du loisir. À la réalisation, la voix, le montage et toute autre tâche connexe, Frédéric Ross. Invités spéciaux, Benjamin Branget, Myriam Côté et Pierre Rosin.